Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Je suis vraiment ravie de vous accompagner tout ce week-end dans la libre antenne d'Europe 1. J'espère que vous allez bien. Nous sommes ensemble jusqu'à minuit pour une libre antenne où vous pouvez libérer la parole parce que ça fait du bien. Vous le savez, la libre antenne est votre émission. Aujourd'hui, vendredi 23 juillet, c'est le début des Jeux Olympiques de Tokyo. Au-delà des polémiques, c'est l'événement attendu par tous les pays du monde. En réunissant les plus grands champions de très nombreux sports, ce rendez-vous quadriennal porte les valeurs du développement humain et la paix mondiale. Mais pour quelles raisons ce rendez-vous passionne-t-il tant certains ? La performance des athlètes ? Les émotions extrêmes partagées ? La découverte de nouvelles disciplines que l'on ne comprend pas forcément ? L'engagement et la prise de risque des athlètes ? Je pense que la principale raison est que le sport représente la métaphore de nos vies. Il s'agit de réaliser le meilleur de nous-mêmes pour les autres. D'ailleurs, Pierre de Coubertin, rénovateur en 1896 des JO antiques, voyait dans le sport moderne un moyen d'atteindre un idéal humain. Je cite « Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher, la difficulté pour la vaincre. Et pour vous, que représentent les Jeux Olympiques ?» En attendant vos réponses, je vous propose de nous inspirer des histoires que vous allez nous raconter dans la libre antenne. Appelez-nous au 3921 pour justement partager vos expériences, vos histoires de vie, vos coups de cœur, vos déceptions. Si vous souhaitez participer à cette chaîne d'amitié qu'est la libre antenne par SMS, il vous suffit de composer le 73921 en commençant par le mot « nuit » ou par mail libreantenne@europe1.fr. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site d'Europe 1 dès demain. Je regarde face à moi, les garçons sont prêts, Bastien, Kelvin vous répondront au standard du 3921 et c'est Fred Hervin qui réalise l'émission. À tout de suite.
Venez vous confier à Sana Blanger sur Europe 1.
Nous sommes ensemble jusqu'à minuit et nous accueillons tout de suite Cécile. Bonsoir Cécile.
Bonsoir Sana.
Bienvenue à la libre antenne.
Merci beaucoup.
Comment ça va ?
Ça va. Un peu fatiguée par tous ces changements, ce Covid qui est fatigant. Je suis en Covid long, moi, donc en plus, on n'en parle pas assez de ce Covid long, mais c'est épuisant, très épuisant et beaucoup d'inconnus. Mais bon, alors, j'appelais pas pour ça à la base.
Non, c'est toujours très, très intéressant. Donc Cécile, vous êtes une auditrice fidèle. Je vous ai souvent eu au téléphone. On se dit vous, parce que voilà, il faut se dire vous, sinon c'est excluant. Mais on s'écrit de temps en temps via les réseaux pour se donner des nouvelles. Et c'est vrai que Cécile, c'est toujours très intéressant de parler de ce Covid long. Vous l'avez contracté quand, le Covid ?
Avril 2020, donc au tout début.
Et
très tôt.
Qu'est-ce qui se passe depuis ?
Eh bien, que des problèmes de santé. D'après les médecins, mon corps a décompensé à ce moment-là. Donc, il faut se remettre dans le contexte où il n'y avait pas le vaccin. Même les tests PCR n'étaient pas forcément fiables. On ne savait pas trop les faire. On a l'impression que c'était il y a longtemps, mais c'est l'année dernière. Et j'ai fait beaucoup de problèmes de santé et ça a accumulé. Et depuis, je n'ai jamais retrouvé vraiment mon odorat.
Ah oui, d'accord.
Ouais, j'ai une fatigue par moment, mais hyper intense. Et récemment, en tombant de ma hauteur, je me suis fait une fracture de la cheville et une déchirure des ligaments, ce qui est quand même impressionnant quand on tombe de sa hauteur. À la limite, une entorse, mais pas quelque chose d'assez important comme ça.
Oui.
Donc moi je prends souvent, je crois beaucoup en l'univers et je me dis, même si j'ai eu très très mal et j'ai encore des douleurs, je me dis que c'était aussi un message pour me dire de me poser et je pense que c'est important aussi de... Alors moi j'ai été confinée au moment où tout le monde se déconfinait, donc ça a été top.
Oui.
Et ça m'a permis encore une fois de faire une introspection sur moi-même, ce qui est toujours intéressant.
Bien sûr.
Là, on l'avait évoqué, la première fois que je vous ai eu, c'était il y a 2 ans.
Et oui,
3 ans,
même, au tout début.
Ouais, au tout début, vous preniez...
L'antenne, oui.
Ouais, et donc j'appelle ce soir parce que... que j'ai entendu juste la fin de l'émission d'hier et j'ai pas trouvé le podcast. Il y a un monsieur qui a téléphoné hier et qui parlait de pédocriminalité, d'inceste. Mm-hmm. Et je voulais parler de ce sujet ce soir, on l'avait déjà évoqué.
Bien sûr, Cécile. Et vous êtes bien placée pour en parler, oui. D'ailleurs. Et oui, parce que voilà. Vous en avez été victime.
Tout à fait. Donc je précise que c'était absolument pas mes parents, mais un ami avec des gros guillemets, hein, un ami de la famille à qui mes parents m'avaient confié temporairement parce que ils étaient obligés, puisqu'il y avait le décès de ma grand-mère.
Et vous aviez quel âge?
J'avais 8 ans.
Voilà, 8 ans à l'époque.
8 ans, donc quand un adulte responsable de vous opère des actes de violence sexuelle, pour pas dire du viol, c'est donc le viol tel qu'il est défini dans la loi, hein, c'est-à-dire, je vais être un peu trash, hein, mais bon, il est 22h, mais appelons les choses comme elles sont, c'est tout acte de pénétration au niveau des parties intimes, et donc quand on a 8 ans et qu'il nous arrive ça...
non consenti.
Bah bien sûr,
voilà.
Oui, pardon. Oui,
non,
sûr.
Mais c'est, je le ouais. précise, mais c'est vrai que c'est non consenti, effectivement.
Oui, et on est complètement déstabilisé. Enfin, je trouve même pas les mots, parce que nous, on a ce repère de cet adulte responsable et on comprend pas. Donc moi, ça a duré plusieurs années puisque c'était un voisin et que je jouais avec ses enfants. Donc ça peut effectivement... Je sais pas si vous avez vu le film Les Chatouilles, j'en fais souvent référence.
Oui, mais, c'est vrai. Eh bien, je ne l'ai toujours pas vu.
Eh bien, il va falloir remédier.
Oui, il va falloir vraiment que je remédie à cela, effectivement. Pardon, pardonnez-moi, Cécile, pardon. Je vais m'en occuper. Je crois qu'il est disponible sur une des plateformes.
Oui,
absolument.
Et puis même en VOD. Mmh. Ouais. Et effectivement, Andréa Bescon, qui est la scénariste et l'auteur et la comédienne, c'est son histoire et c'est assez similaire à la mienne. Moi quand j'ai appris, alors il y a toute cette histoire de prescription, de pas prescription, etc. Donc en France, il y a la prescription. Donc, je trouve ça très écœurant. Parce que nous, victimes, quand on a été victime de pédocriminalité, on prend perpétuité.
C'est sûr.
On n'a pas le choix. C'est comme ça.
C'est vraiment... Cécile, j'ai deux questions à vous poser.
Oui.
La première, c'est à quel moment, à quel âge ou à quel moment est-ce que vous avez compris que ce que faisait cet homme n'était pas normal? Et à quel âge ou à quel moment est-ce que vous avez compris que vous étiez une victime?
C'est une bonne question, mais c'est très compliqué pour moi de dire est-ce que j'ai eu une amnésie traumatique, c'est-à-dire la mémoire qui fait le cerveau est bien fait, mais vous le savez certainement
mieux que moi. Très bien fait, oui.
Et moi j'appelle ça des tiroirs qui se referment, alors voilà, c'est mon image à moi, mais peu importe, il y a des termes certainement médicaux, hein, mais... comme on est en situation de danger et que ça, notre corps sécrète, alors je ne sais plus quelle est l'hormone du stress, je ne me rappelle plus.
Oh, il y en a plusieurs.
Ouais.
Il y en a plusieurs, oui.
Une hormone du stress.
Cortisol, par exemple.
Oui, voilà.
Oui, d'accord.
Oui, enfin, il y en a d'autres après, pardon, je vous ai coupé. Mais...
Non.
Et en fait... alors ça, je l'ai su il y a un an, hein, seulement, hein, ce que je vous dis là, parce que j'ai testé beaucoup de choses, donc c'était de l'EMDR. D'ailleurs, je vous avais appelé juste avant l'EMDR.
Absolument.
Il faut déprogrammer, en fait, le cerveau, mais comme on n'en a pas conscience, c'est extrêmement compliqué, hein, tout ça. Et notre cerveau est extrêmement bien fait, puisque pour nous protéger, il verrouille des choses. Donc, en fait... Moi, j'ai pas réalisé, enfin, je peux pas l'affirmer, mais j'ai en tout cas vomi, parce que je peux pas le dire autrement, toute cette histoire. J'avais pratiquement 20 ans. Donc, il s'est passé 12 ans.
Ah oui.
Et c'est peu par rapport à d'autres victimes,
où
j'ai compris. Mais parce que, pourquoi ? Parce que, à l'âge de 19 ans et presque 20, J'ai rencontré un homme, puisque jusqu'à cet âge-là, je n'avais aucune relation, j'y arrivais pas. Enfin, je sentais bien qu'il y avait un blocage chez moi, mais ça me faisait peur. Et cet homme, donc, a 13 ans de plus que moi, enfin, j'allais dire avait, puisqu'on n'est plus ensemble, mais il les a toujours. Peut-être parce qu'il était plus âgé que moi, je sais pas après. Hein. Lui, évidemment, a compris au moment de l'acte intime et m'a conseillé de libérer ma parole, parce que là, j'ai pris connaissance effectivement que c'était pas quelque chose de normal, que ça avait été violent. Donc évidemment, ma vie a basculé. Donc je l'ai vomi, cette histoire. Vraiment, j'insiste, parce que je ne l'ai pas dit correctement à mes parents, mais je ne savais pas le faire autrement. Et là a commencé une descente aux enfers, ce qui est très bien expliqué dans le film d'Andrea Bescon, Les Chatouilles. Je ne peux pas dire qu'on a tous ce parcours, mais enfin, on a beaucoup de similitudes, nous les victimes, dans ces schémas-là. Un parcours d'autodestruction, un parcours de violence, contre moi-même,
oui,
mais pas contrôlé. C'est très étrange. J'ai fait de nombreuses tentatives de suicide, dont une fois quand même j'ai sauté d'une voiture qui roulait. Donc j'avais fait une dizaine d'années de judo et c'est ça qui m'a sauvée. Je n'ai rien eu de cassé à ce moment-là, donc c'est pour dire. Par contre, j'avais bien sûr beaucoup d'hématomes. Et là, donc mon compagnon m'a emmenée à l'hôpital, évidemment, j'étais dans un... Comme si je redevenais dans mon état de petite fille. Alors ça, je l'analyse maintenant, mais sur le moment, je n'étais pas capable. Je ne voulais avoir affaire qu'à une femme qui a dû mettre, je ne sais pas, une heure peut-être, pour pouvoir me parler. J'étais cachée sous les draps. Et là, on m'a bien sûr retiré toutes mes affaires pour pas que je puisse m'échapper, puisque c'était qu'une chose que je voulais faire, c'était m'échapper de cet hôpital pour me suicider. Et même là, je ne pouvais pas prendre une douche seule parce que ils avaient peur que je m'étrangle. Donc là, une descente aux enfers a commencé. C'est-à-dire que plusieurs années, j'ai eu beaucoup de chance malgré tout. J'ai expérimenté, je ne sais pas trop si c'est le terme exact, plein de choses pour.
Non, c'est le bon terme. Tester, expérimenter des choses qui. Ouais. C'était pourquoi ? C'était pour vivre ou au contraire pour passer de l'autre côté ?
Pour passer, enfin ouais, c'était même pas défini. Je me détestais en fait. Alors j'étais très sportive, je provoquais les hommes, mais quelque part, je pense que maintenant avec le recul, c'était pour les humilier, pour me salir moi, mais pour les salir eux aussi. C'est très complexe. Hein.
Et justement, oui, dans cette. Non, mais je vous en prie, Cécile. Et dans cette complexité-là, dans cette distorsion de votre image, Cécile, qu'est-ce que vous disaient les psys à ce moment-là ? C'était quel diagnostic ?
Alors, une psychiatre qui m'a sauvée après cette tentative de suicide de la voiture, moi, je ne voulais pas la voir. Et elle a eu une attitude extraordinaire, je trouve. Donc, il faut remettre le contexte. Hein, j'ai 50 ans, donc c'était il y a 30 ans. Hein. Mmh. Donc c'est quand même, on n'en était pas à ce stade-là d'aujourd'hui, de libération de parole, etc., de toute cette prise en charge.
C'est vrai.
C'est important de remettre le contexte. Mmh. Donc c'était dans un CMP, puisque à l'époque je gagnais pas, j'étais à mi-temps. Enfin bon, voilà, je pouvais pas me payer un psy. Et donc dans un CMP qui existe toujours, hein, les CMP, elle a fait le tour de son bureau. Elle s'est mise à côté de moi. Donc déjà, ça a mis, un niveau différent. Enfin, vous voyez, c'était pas la psychiatre, le médecin, parce que moi, pour moi, les gens qui consultaient les psychiatres, c'était des gens qui avaient un problème, quoi.
Oui, elle a cherché à synchroniser probablement ses gestes avec les vôtres et pour vous mettre en confiance.
Et elle m'a fait un schéma du cerveau avec les neurotransmetteurs, rapide, hein, parce que je ne voulais pas prendre de médicaments. Donc, pour pas dire des antidépresseurs. Et elle m'a expliqué, en fait, à quoi servaient les neurotransmetteurs. Et c'était elle m'a expliqué que c'était pour me sauver et pour me sauvegarder, quelque part, pour que je reste en vie. Mais moi, tout de suite, j'ai eu l'idée de dire, OK, je vais prendre la boîte, quoi. Donc, oui. Évidemment,
donc, elle a su être très persuasive.
Voilà. Donc elle a eu beaucoup de fil à retordre avec moi, mais elle a réussi vraiment petit à petit. Elle a eu beaucoup de patience et je voulais l'appeler. J'ai essayé de la retrouver, je la retrouve pas, pour la remercier. Donc peut-être que si elle écoute maintenant, je la remercie parce que pour moi elle m'a vraiment sauvée. Et je me souviens de son nom, mais je le dirai pas à l'antenne. Mais elle m'a vraiment marquée. C'était une femme qui représentait la douceur et en même temps le côté médical, mais je la voyais plus tellement comme quand j'allais la voir, en fait. Une fois, je me souviens, j'avais plus envie et vraiment, il y a eu des synchronicités déjà à cette époque-là. J'allais passer le pas de la porte pour sortir du CMP, elle m'a mis la main sur l'épaule. Elle venait de sortir de son cabinet et elle m'a dit bah, « Vous faites quoi ?» J'ai dit bah, « Je m'en vais ». J'étais vraiment dans la rébellion, quoi. Mmh. Et elle m'a dit « Non, non ». Et un jour, elle m'a dit « Cécile, vous êtes née pour réparer ». Et moi, à l'époque, je n'ai pas entendu comme il fallait. Je n'étais pas prête et je lui ai dit « Ok, où est la caisse à outils ? Qu'on en finisse, quoi. » Parce que moi, bien c'est sûr. Bon, je veux vivre maintenant, j'en ai marre de survivre, quoi. Mmh. Donc, je suis passée par de nombreuses années de... J'ai failli sombrer dans l'alcoolisme, j'étais vraiment pas loin. J'ai été à moitié anorexique, j'ai été... Enfin, voilà, j'ai vraiment passé des phases où je pense... Maintenant, avec le recul, mais vous saurez mieux que moi me dire, c'était pour me faire du mal et parce que je n'acceptais pas mon corps, en fait, puisque je représentais la féminité et que bah, pour moi, c'était alors,
un
encore
danger.
Inconscient.
Ouais, bah, c'était un danger, oui.
Malgré forcément. Mes attitudes, comme, elle, comme on le voit très bien dans ce film Les Chatouilles, très vraiment très bien fait, où elle a, alors, c'est pas une addiction au sexe, parce que quand on est. Quand on est victime, je pense qu'on a des côtés un peu addictifs. Alors, je ne sais pas si c'est lié, mais moi, j'ai vraiment cette impression-là. J'ai failli sombrer dans la drogue. Heureusement, je ne l'ai pas fait, mais j'étais vraiment sur le fil à chaque fois, quoi.
Alors, il y a eu pas mal de témoignages hein, à la Libre Antenne de personnes victimes, justement, de pédocriminalité. Mmh. Et c'est vrai que très souvent, il y a une addiction qui est mise en place, qui se crée pour compenser ces émotions fortes qui peuvent perturber les victimes. Hein. Voilà, c'est des images qui sont ancrées, malheureusement. Et pour y échapper, j'ai envie de dire vraiment, ce sas de décompression devient une addiction qu'on met en place pour s'échapper, pour fuir, pour planer, pour penser à autre chose.
C'est ça. Exactement, pardon Sana de vous couper,
non,
mais
c'est ce que
j'essayais de dire au début, c'est pour revenir à ça, c'est pour créer, si j'ai bien compris le système de nos cerveaux, c'est pour retrouver ce cortisol, en fait, cette adrénaline, voilà, c'est l'adrénaline que je cherchais quand on a très très peur, qu'on est terrorisé. Moi après, des années après, hein, donc de l'âge de 19-20 ans jusqu'à l'âge de... je ne sais même pas dire de limite, mais enfin, elle est loin la limite. Hein. Ouais. Plus de 40 ans, j'ai vécu des choses. Je peux vous raconter une anecdote, maintenant je peux le dire. Avant, j'avais du mal à le dire, mais j'ai fait beaucoup de chemin depuis. Un exemple tout à fait concret, remettons le contexte, il n'y avait pas les téléphones portables, il y avait les cabines téléphoniques. J'ai l'impression d'être un dinosaure quand je dis ça, mais ça existait encore.
Il y avait le bebop, le bebop à l'époque, et le tam-tam. Il y avait le tam-tam aussi.
Ah, vous avez connu aussi.
Ah bah oui.
Et donc, en fait... Donc j'appelais mon compagnon, parce que donc je travaillais sur Paris, mais je vivais en Normandie, et donc je l'appelais pour lui dire j'ai pris ce train-là pour qu'il vienne me chercher, puisqu'on n'avait pas les portables, on pouvait pas s'envoyer des textos dans le train. Donc il faut remettre vraiment le contexte, et donc on avait des cartes téléphoniques, vous savez, après les pièces, il y a eu les cartes.
Oui, tout à fait.
Et j'étais donc, je prenais le train à Saint-Lazare, il y a quand même du passage à Saint-Lazare, et bien un homme est venu vers moi, sous prétexte de me questionner sur une enquête quelconque, peu importe, il m'entraîne dans un train non allumé et j'y vais. J'avais la carte téléphonique dans la main, dans ma poche de veste. Je l'ai tellement serrée, elle s'est imprimée dans ma main, enfin vous savez, les bords.
Vous l'avez serrée dans la main très fort.
Ben oui, parce que là, j'étais tétanisée et donc j'ai été violée dans ce train et Après, il m'a dit merci, il est parti. Enfin, là, c'est des images qui me sont revenues il y a pas très longtemps. Hein. Et je me vois repartir dans mon train donc qui m'emmenait en Normandie. Donc, je ne me vois pas ma tête, mais je peux vous assurer que c'est vrai hein, ce que je vous dis. Je suis rentrée dans ce train qui était rempli de personnes. Personne. Il y avait des gens debout. Et la place à côté de moi était vide. Je pense que je devais avoir une tête tellement terrorisée que personne n'a osé s'asseoir. Même le contrôleur n'a pas contrôlé mon billet. J'étais comme si j'étais hors de moi-même.
Mais c'est terrible. Vous êtes en train de ce que je comprends, nous dire que vous avez été victime d'un viol à 8 ans et puis quelques années plus tard, à la gare Saint-Lazare, dans un train, c'est ça?
Tout à fait.
D'accord. Waouh.
Mais j'ai été victime de nombreuses fois, d'autres fois, adulte, à l'âge adulte, de viol. Parce qu'en fait, y a des mécanismes, comme si certains hommes savaient déceler en nous, comme si... Comment ?
Une proie.
C'est ça. Parce que dans Saint-Lazare, j'étais pas toute seule. Hein.
Bien sûr.
Pourquoi il est venu vers moi ? Enfin, voilà. Et pourquoi je l'ai suivi ? Enfin, il y a peut-être des auditeurs qui disent « Bah ouais, pourquoi elle l'a suivi ?» Je peux même pas l'expliquer. J'étais terrorisée. Et les autres viols que j'ai subis, c'était exactement la même chose. Donc, c'est des prédateurs, j'appelle pas ça autrement,
bien sûr.
Qui savent repérer. Et,
d'où
et
le
donc,
terme « proie », ouais. Ouais.
Voilà, tout à fait. C'est très, très juste. Et j'ai été violée à plusieurs reprises par d'autres hommes. Mais cette fois-là, m'est revenue il n'y a pas très très longtemps. Je crois qu'on appelle ça la dissociation. Je sais
c'est
pas si
exactement c'est ça. C'est la dissociation. Voilà. Vous auriez aimé rester dans une forme de déni, Cécile ? Est-ce que vous auriez... Oui, vous ne savez pas.
Je ne sais pas. Est-ce que... Bah, en fait, je pense... En même temps que vous me posez la question, j'ai envie de dire... Oui et non. Oui, parce que peut-être que je n'aurais pas vécu tous ces viols. Et non, parce que je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Et on en a déjà parlé avec vous, Sana. Je suis marquée à vie. J'ai pris perpétuité. Mais je suis debout. Bon, même si j'ai une cheville cassée avec des béquilles, je suis debout.
Ouais. Et quelle force, Cécile.
Pardon ?
Et quelle force ? Parce qu'on n'a pas encore... Non mais c'est vrai, on n'a pas encore tout dit aux auditeurs, mais je sais tout ce que vous faites, notamment l'association des... Bah oui, des papillons, voilà. Notamment.
C'est ça.
Donc voilà, donc non seulement...
C'est ça que je voulais dire.
Oui.
Pardon, Sana.
Non, mais je vous en prie.
En fait, quand vous me posez la question, alors oui, parce que j'aurais peut-être pas vécu tous ces viols, non, parce que justement, je n'aurais peut-être pas eu cette force... et venant de vous, ça me touche beaucoup, d'appartenir à l'association donc Les Papillons, qui est une association de lutte contre les maltraitances infantiles, toutes les formes de maltraitance.
Tout à fait.
Qui a été créée par Laurent Boyer, qui est un monsieur qui a 50 ans aussi, c'est un ami, qui a été victime de viol par son frère, je le dis parce qu'il a écrit un livre dessus. Et donc je gère le département dans lequel j'habite et nous déposons des boîtes aux lettres dans les écoles, dans les clubs sportifs, dans les lieux, dans les centres aérés où on accueille des enfants pour les aider à libérer leurs paroles de toutes les formes de maltraitance. Et moi, justement, c'est étonnant parce que ça me revient là ces derniers temps parce que justement je fais dessiner débat pour Les Papillons, je présente l'association. Et là, je me sens tellement alignée. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, Sana, mais je suis à ma place, là.
Je vois tout à fait. Est-ce que ça vous réconcilie avec une partie de vous-même, du coup, Cécile ? Est-ce que cette image que vous avez de vous-même, est-ce que vous êtes en train de vous rendre compte de la personne que vous êtes ?
Alors, c'est compliqué aussi comme question. Vous posez des questions compliquées ce soir, Sana.
Pardon.
Mais vachement intéressante. Parce qu'en fait... Je veux pas dire que j'ai adhéré au papillon pour me guérir parce que je pense que ce serait pas une bonne chose. Mais
ça
je me souviens.
Mais ça aurait pu, bien sûr.
Mais moi je l'ai pas fait dans ce sens-là. C'est-à-dire que je le fais vraiment parce que, en plus, par ce qui m'est arrivé, je suis convaincue que j'ai développé une endométriose, donc une maladie qui est première cause d'infertilité en France pour les femmes et qui est très invalidante. Et je n'ai pas pu avoir d'enfant. À cause de ça, je pense que c'était ma hantise. Et donc, j'aime tous les enfants du monde, du coup. Et j'ai envie de sauver les enfants parce que moi, je me souviens qu'au lycée, donc à peu près avant que je vomisse cette histoire à mes parents, j'avais écrit une lettre et ça m'est revenu il n'y a pas très longtemps. Donc j'ai quand même fait une amnésie traumatique sur certaines choses. J'avais écrit une lettre, alors c'est plus une lettre, ça faisait une dizaine de pages, à la... comment ça s'appelle, les CPE, c'est conseiller principal d'éducation,
c'est oui, ça? Oui, c'est ça, les CPE, ouais.
Dans mon lycée, parce que j'avais bien aimé, parce que elle voyait que j'étais seule au lycée, hein, je m'isolais, etc. Et elle était venue vers moi et elle faisait des études d'avocat. Et je lui avais écrit cette lettre et comment un adulte, parce que elle était hyper bienveillante, mais moi je lui ai balancé mon histoire. Et après, c'est compliqué pour un adulte de recevoir la parole d'un enfant, quand on n'est pas formé, quand on n'est pas habilité, quand on n'est pas... Enfin, vous voyez, c'est compliqué. Donc, ces systèmes de boîte aux lettres, c'est vraiment extraordinaire.
C'est
parce
génial.
Que, du coup, nous, maintenant, nous, les bénévoles, ceux qui désirent être formés, on a des professionnels qui sont bénévoles chez nous et qui nous forment à ce qu'on appelle la phase de sensibilisation des enfants. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a signé la convention avec l'établissement ou le club de sport, on met la boîte aux lettres et après, on vient sensibiliser par groupe de 30 les enfants avec l'équipe éducative. On ne se substitue jamais à ces équipes. Et là, pendant la sensibilisation, on peut avoir, comme il y a 2 enfants sur 5 par classe qui sont touchés par des violences, que ce soit de la pédocriminalité, du harcèlement, quelle que soit la violence, il est évident que dans un groupe de 30, on va en avoir.
Bien sûr.
Malheureusement. Eh bien, on a par exemple un enfant qui s'est mis en position fœtale au moment de la présentation. On a des petites vidéos adaptées à chaque âge de 5 minutes et après on fait des questions-réponses.
D'accord.
Un enfant qui s'est mis en position fœtale sous une table. Vous imaginez la résonance que ça a pu avoir. On a des enfants qui pleurent, on a des enfants... On n'a quasiment jamais de sensibilisation, il ne se passe rien. Donc c'est là qu'on est. Donc nous, on ne recueille pas la parole en direct, mais après, donc les enfants vont mettre un mot dans la boîte aux lettres. Les bénévoles qui relèvent cette boîte aux lettres font une photo du mot, l'envoient à la cellule de lecture, qui est une cellule nationale pour le moment. Il va y en avoir au niveau des départements. Et après, en fonction de la gravité, l'association prévient les cellules de recueil d'informations préoccupantes dans chaque département. Et on a sauvé beaucoup d'enfants comme ça. Et moi, franchement, si je lutte, c'est devenu un combat.
Oui, je comprends. Bah oui.
Un combat, et jusqu'à mon dernier souffle. Et vous savez, quand j'ai eu le Covid l'année dernière, j'étais pas encore toute adhérente. Je commençais à demander à Laurent des renseignements, parce qu'on est une jeune association, hein, on va sur notre 3 ans, là. On est à plus de 1000 adhérents, c'est une grande fierté. J'ai pleuré énormément parce que, et je vais encore avoir des émotions à le redire, je ne voulais pas, pardon Sana, je ne voulais pas mourir. J'ai eu peur de mourir du Covid et de ne pas aller au bout de ce combat. Ça aurait été dramatique.
Je comprends. Mais
et
vous êtes
fait,
là, Cécile. Vous êtes là.
Ouais. Voilà. Et c'est là que je trouve, et dans mon parcours, j'ai rencontré des gens formidables. Qui est devenue une amie, je voudrais la citer parce qu'elle s'appelle Julie et elle a écrit un livre récemment qui s'appelle « À nos sœurs, nos mères et nos filles » et qui parle de sororité parce que même avec vous, quand j'écoute aussi vos émissions et les échanges qu'on a sur les réseaux sociaux, on peut parler de sororité.
Bien sûr.
Et
de toutes les
pour
deux.
Moi, oui, alors je déteste pas les hommes, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire.
La sororité, c'est une confrérie, hein, c'est les femmes entre elles. Mais c'est vrai qu'on arrive plus facilement aussi parfois à libérer la parole entre femmes parce que, voilà, on se dit, déjà, c'est l'effet miroir des femmes entre elles. Et puis, malheureusement, c'est triste à dire, mais très souvent, la pédocriminalité existe dans de nombreuses familles, dans les, je dirais, les, dans les différentes étapes de notre vie. C'est triste, mais bon sang.
Quel que soit le milieu social.
Quel que soit le milieu social, c'est absolument ça. L'âge également. Donc, ouf, bon, pédocriminalité, c'est quand on est enfant, mais j'ai envie de dire que la criminalité sexuelle, malheureusement, c'est...
Ah ben, les féminicides, les violences conjugales sont liées à la pédocriminalité.
Bien sûr.
Un enfant qui voit sa mère se faire assassiner sous ses yeux, c'est hyper violent. C'est absolument horrible.
Cécile, nous avons reçu un SMS.
Oui.
Alors, je vous lis, il n'est pas tout à fait complet, mais je vous lis quand même. Il vient d'Anna, qui nous dit « Comment un enfant handicapé avec un retard peut-il libérer sa parole ?» Alors, avec un retard probablement mental, peut-il libérer sa parole ?
Alors, c'est une très bonne question. Nous, au niveau des papillons, on est en train on a monté des petites commissions en interne avec des directeurs d'école, parce qu'on a des bénévoles qui sont instits et qui sont dans l'éducation nationale ou vraiment proches des enfants.
Mmh.
Et on a monté des groupes comme ça où on va essayer de réfléchir à comment, enfin, on est en train d'essayer de réfléchir à comment libérer la parole des enfants qui ne savent pas écrire au niveau de la maternelle, par exemple. Donc, pour les personnes avec un retard, effectivement, c'est un problème qui se pose parce qu'on a aussi des retours de personnes qui nous contactent parce qu'on a une boîte aux lettres virtuelle sur notre site, lespapillons.org, d'enfants handicapés qui sont victimes de violences sexuelles sous prétexte qu'ils sont handicapés.
Oui.
C'est extrêmement grave,
terrible.
C'est violent.
C'est terrible.
Alors, je n'ai pas la réponse pour Anna, je suis désolée. Mais effectivement, c'est très, très, très violent et dramatique aussi que des enfants handicapés subissent des violences.
Alors moi, j'ai une image comme ça qui me vient. C'est justement une image pour répondre à Anna. Peut-être que donner néanmoins une feuille de papier et un stylo... Il en ressort toujours quelque chose. Même si ce ne sont pas des mots, le fait de gribouiller et de voir l'enfant d'être dans une forme de spirale où il gribouille sans cesse, sans s'arrêter, ou des images qui veulent dire quelque chose, c'est déjà une façon de libérer la parole, même si elle n'est pas inscrite dans le marbre. Je parle en termes de mots, M-O-T-S, pour décrire ces mots.
M-A-U-X,
ouais, tout à fait.
C'est ça,
bon, voilà, Anna, on espère que on a apporté déjà un début de réponse.
Et alors, je voulais lire une citation qui est tirée du livre donc de Julie Aurélie, donc « À nos sœurs, nos mères, nos filles », qui reflète exactement ce que... Enfin, je le lis et ça ne vous ennuie pas, Sana,
Non. Et puis ensuite, je prendrai une maman qui souhaiterait également s'exprimer, justement. Voilà, votre appel, Cécile, ça libère la parole de d'autres personnes, donc... Merci.
Alors cette citation, c'est « Un jour, je me suis posée, j'ai décidé de m'aimer. Qu'importe ce à quoi ressemblait mon corps et ce que les autres en pensaient, j'étais fatiguée de haïr mon corps. » C'est Gabouré Sidibe, qui est une actrice afro-américaine qui a écrit cette phrase.
Mm.
C'est exactement ce que moi j'ai mis très longtemps, c'est très récent, que j'ai un miroir chez moi. Parce que, d'ailleurs la cheville, c'est le symbole de la féminité, j'ai du mal à exprimer ma féminité. C'est tout bête, hein, de passer par du maquillage, par des robes, etc. C'est assez récent pour moi d'exprimer, parce que même si à l'âge de 20 ans, je me mettais en robe et tout, mais c'était pour me salir et salir les hommes à travers ça. Vous voyez ce que je veux dire ?
Je comprends
complètement. Là, maintenant, aujourd'hui, quand je me mets en robe, le jour de mon anniversaire, j'étais en robe, et une amie m'a dit « Mais t'es canon !» Et ça m'a fait un bien fou, parce que je lui ai dit, mais elle me dit, pourquoi tu te mets pas plus souvent en robe? Bon, elle connaît mon histoire. J'ai dit, parce que j'ai peur. J'ai peur de retomber dans ce que je vous ai raconté, d'être tétanisée face à un homme malveillant et de subir encore. Donc maintenant, je me sens, malgré mes béquilles, bien solide et plus personne ne me fera du mal.
Oui,
voilà.
Et puis avec une béquille, Cécile,
on peut se défendre.
On peut se défendre. Et alors, je le dis, on ne tape pas dans les parties intimes, ça ne sert à rien. On tape le genou. Non, mais je vous assure que c'est vrai, pour déstabiliser quelqu'un, on le tape au niveau du genou, puisqu'en fait, c'est là que l'équilibre se fait. Donc, on arrête l'image et le cliché de taper les parties intimes, on va directement dans le genou, clac. Voilà, je vous le dis.
Donc, faut faire du Krav Maga.
Voilà, c'est presque un peu le Krav Maga, mais bon, on n'en est pas là. J'espère franchement, Cécile, que même en portant une robe, on verra plutôt votre féminité et puis la beauté que vous pouvez être tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Ça, c'est surtout ça le plus important. Et vraiment, Cécile, un grand merci pour tout ce que vous déployez comme énergie pour les autres. On parlait de ça tout à l'heure à travers les Jeux Olympiques, cette volonté de vouloir vraiment voilà, passer et transmettre un message. Merci pour ce que vous êtes, merci pour ce que vous faites, Cécile, vraiment.
Ben, merci à vous, Sana, parce que c'est vrai qu'on échange quelquefois sur les réseaux et vous êtes toujours d'un grand soutien, vous avez toujours les mots.
Merci.
Alors qu'au départ, je peux l'avouer, je vous avais écrit parce que j'étais un peu en colère contre vous, je ne voulais pas que vous fassiez cette émission. Et je vous ai présenté mes excuses et c'est là que je vois mon évolution aussi, c'est-à-dire
et
que...
Et la mienne
Et vraiment, j'apprécie énormément. Ouais, vous disiez qu'il y avait une maman qui voulait parler, pardon.
Oui. Elle s'appelle Nathalie. Ouais. Ouais, absolument. Donc vous allez l'écouter. En fait, on va la prendre en même temps. Et puis comme ça, moi, on verra. On va la prendre en même temps, Nathalie. Puis moi, on vous dira au revoir ensemble avec Nathalie, okay. Cécile. D'accord.
D'accord.
Bonsoir, Nathalie.
Allô, oui, bonsoir.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Ah, merci. C'est un peu étrange de vous parler, mais ça fait plaisir en même temps. Voilà.
C'est respectif. Donc, vous savez, on est là pour ça. Hein, on libère la parole, on échange. Soit on apporte une écoute bienveillante, soit on conseille comme on peut, avec beaucoup de modestie et surtout de l'humilité. Parce que vous nous apportez beaucoup et que tout est perfectible. Donc, merci de votre confiance, Nathalie.
Ok, merci. Je vous écoute souvent et voilà. Donc, merci également.
Est-ce que vous aviez un mot à dire à Cécile avant qu'elle ne nous quitte pour le moment ?
Oui. Bonsoir, Cécile. Son histoire est... Et vraiment, déjà, j'aime beaucoup la façon dont elle s'exprime. J'ai peur de ne pas être à la hauteur parce que c'est tellement fluide, etc. Et puis, son histoire, est assez, assez frappante, hein, quelque part, assez...
Malheureusement,
voilà.
Un échantillon de ce qui se passe autour de nous, sans que parfois nous le sachions. D'où l'importance de libérer la parole.
Oui, c'est ça. Et si je me suis permis de téléphoner, c'est parce que du coup, ce qu'elle expliquait à un moment donné a fait écho à quelque chose qui s'est passé au sein de ma famille. Donc voilà.
D'accord. Cécile, à bientôt.
Oui, je vous remercie, Sana. Donc j'encourage les gens à libérer la parole le message que je voulais passer ce soir en conclusion, c'était que quand on est victime, on, même si on prend perpétuité, moi je suis contente de ne pas avoir réussi à mourir parce que je suis contente d'être là où je suis et même si j'ai des cicatrices, elles sont pas moches et ça fait ce que je suis aujourd'hui. Et merci encore à Europe 1 et à Sana et à tous les gens.
Merci Cécile.
Toute cette bienveillance. À très bientôt.
Je termine juste par un SMS que vous avez reçu d'Annie qui dit « C'est terrifiant de savoir que c'est en famille ou avec les amis. Vous êtes impressionnante de courage. » À bientôt Cécile.
Merci beaucoup Sana. Au revoir.
Au revoir. Nathalie.
C'est vrai que je suis venue directement sur ce sujet-là parce que pour moi c'est un petit peu difficile de vous appeler, je vous l'avoue, même si c'est pour une situation qui a comporté nettement moins de violence. C'est peut-être pour ça aussi que c'est difficile de parler.
Je comprends.
Après avoir entendu donc Cécile.
Je comprends, mais vous savez, chaque histoire est unique. Donc.
Oui.
Voilà.
D'accord. Et donc, je vous expose peut-être directement de quoi il s'agit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Alors en fait, donc c'est par rapport à ma fille, qui est depuis récemment majeure, et il s'est produit que dans l'enfance, elle a eu c'est un peu difficile pour moi parce que ça s'est révélé tardivement, il y a seulement 2 ans.
Oui.
Elle est exposée, à la pornographie. Alors, comme ça, ça paraît, j'ai l'impression que ça paraît anodin. Mais si vous voulez, le problème, c'est que c'est dans le milieu familial. Avec le papa, nous sommes séparés. Mmh. Et donc, il y avait une garde alternée, alternée classique. Et ce papa je suis un peu gênée de dire tout ça, mais voilà, oui. C'est une réalité.
Appelons un chat un chat et nous, on fait l'un de compagnie.
Oui, ok. Et donc, ce papa a une certaine façon de vivre sa vie intime. Et c'est extrêmement débordant. Et donc, ma fille a été, bon, comme je disais tout à l'heure, exposée à de la pornographie. Voilà. Et puis, il n'y a pas eu certainement, mais moi, je n'étais pas là pour vérifier, puisque c'était pendant ses droits de visite et d'hébergement.
Elle a quel âge, votre fille ?
Là, elle est majeure. Elle est majeure. Et ce qui, pour moi, ce qui a fait écho, qui vraiment m'a poussée à vous appeler, c'est que Cécile parlait d'autodestruction.
Tout à fait. Alors, Nathalie, vous entendez la musique ? Je vous rassure. C'est juste, en fait, pour atterrir tout doucement, pour présenter le journal de Sophie Tussaud. Et en fait, vous l'aurez compris, je vous reprends juste après les informations.
D'accord.
Donc là, on atterrit tout doucement et puis on se retrouvera après les infos. D'accord. Donc, okay. Juste une dernière question. Votre fille, aujourd'hui, elle est majeure?
Oui.
Et elle a quel âge aujourd'hui?
Là, elle va avoir 19 ans.
19 ans. Oui. D'accord. On se retrouve juste après?
D'accord, ça marche.
À tout de suite.
À tout de suite.
Merci de votre fidélité. Si vous nous rejoignez, nous sommes ensemble pour une petite heure sur la libre antenne d'Europe 1. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site d'Europe 1. Et Bastien et Kelvin sont impatients de vous avoir au standard du 39-21. A tout de suite.
Sana Blanger est à votre écoute sur Europe 1.
Nous retrouvons Nathalie qui, juste avant le flash de Sophie Tussaud, nous expliquait que, manifestement, de ce que j'ai compris, votre fille a été exposée à l'intimité de son papa.
Oui, c'est exactement ça.
C'est voilà. Je comprends.
C'est ça, oui. Et je veux pas donner les anecdotes, ce qu'elle m'a rapporté, qu'elle m'a rapporté d'ailleurs tardivement, parce que ensuite, j'ai su que c'est parce que certainement c'était tellement difficile parce que ça a démarré quand elle était assez jeune, donc elle aurait été rangé ça quelque part et était dans l'incapacité ensuite de l'exprimer. Mmh. Je suis un peu émue et un peu en difficulté pour en parler parce que du coup les informations je les ai eues à partir de ses 16 ans, donc c'est encore un peu récent, enfin voilà, c'est...
Vous avez ressenti, Nathalie, quand votre fille vous a... parce que bon, si concrètement à quoi a-t-elle été exposée? Je comprends qu'il y a eu des films pornographiques, c'est ça? Donc son père regardait les films et elle était là? Expliquez-nous exactement.
C'était plus caché, plus subtil, mais des choses. Bon, par exemple, un jour, il clique pour ouvrir des photos de vacances en racontant, j'espère qu'il n'écoute pas la radio, enfin, ça m'étonnerait, mais... donc il clique pour montrer des photos de vacances, elle avait, un peu moins de 6 ans, et elle est assise sur ses genoux, et il clique, et à un moment donné, bon, c'est un sexe masculin qui apparaît, vous voyez? Donc, ou alors il y avait donc des revues...
qui traînaient
très peu cachées, finalement, sous meuble télé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les ébats avec les voilà, qui étaient qui était, je sais pas, parce que j'y étais pas, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Donc c'est vrai qu'elle-même, de toute façon, m'ayant raconté longtemps après, c'est vrai que j'ai quelques petites choses comme ça qui sont un peu précises. Mais c'est vrai que quand même, ça l'a mise beaucoup en difficulté. Et moi avec, parce que d'ailleurs, à une époque, même je me posais des questions. Et j'ai même cru à une époque, quand elle était beaucoup plus jeune, j'ai même craint le pire, voilà. Donc, à l'époque, j'avais fait des démarches, notamment d'aller voir l'emmener voir un médecin, etc. Parce que je me doutais qu'il y avait quelque chose de bizarre, vous voyez.
Mais, c'était quoi, une forme de maturité sexuelle par rapport à son âge? Parce qu'on pourrait quand même mettre ça, on pourrait penser à de la pudibonderie, finalement, oui. Vous savez, le fait de se dire, voilà, c'est un peu, comme on dit, ce rappel des valeurs bourgeoises et réactionnaires, vous savez, pétri de conventions sociales où, en fait, attention, il ne faut pas trop se montrer, mais néanmoins, il faut un juste milieu. Est-ce que vous aviez quand même le sentiment que votre fille avait une forme de sexualité un peu avancée par rapport à son âge ou... Parce que là... D'un point de vue factuel, j'essaye de comprendre exactement ce qui vous gêne ou en quoi votre fille finalement s'est exprimée et qui fait que vous nous appelez, enfin que vous m'appelez. Qu'est-ce qui se passe concrètement?
Oui, eh bien en fait, petite, alors c'est vrai que petite, elle me faisait des dessins bizarres. Voilà. Voilà. Et elle me faisait des dessins, que je trouvais particulier, voilà. Et puis aussi quand elle revenait de week-end à une époque, eh bien pour dormir, elle faisait tout un cercle autour d'elle avec ses peluches. Alors je trouvais ça un peu bizarre parce que si elle passait du temps avec moi, elle ne faisait jamais ça. C'était au retour de week-end. Alors ça m'interrogeait un petit peu parce que c'est un besoin. Enfin moi j'ai compris ça comme un besoin de se protéger. Donc je me demandais un besoin de se protéger contre quoi.
Oui, je comprends.
En apparence tout allait vraiment super. Oui. Le papa parfait, etc. Donc mais il y a autre chose. Il y a une autre forme de violence un peu qui s'est exercée parce que ce monsieur est dominant, très très dominant. Voilà. Donc, il n'y a pas que l'aspect où il expose comme ça, parce qu'il est, il a une forme... Bon, depuis, on a parlé à... Ma fille a été suivie par un psychologue.
Oui, d'accord. Donc, ça l'a vraiment perturbée. Puisque un psychologue... Enfin, voilà, elle a vécu ça presque comme... j'allais dire, un viol... d'ailleurs, là, il y a un SMS qui vient d'arriver. J'allais presque employer le même terme de viol psychique... C'est extrêmement grave, nous dit ce SMS. Il s'agit d'un viol psychique et les répercussions peuvent être dramatiques pour sa fille. Donc forcément, comment va votre fille aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle exprime vis-à-vis de son père? Ils en sont où tous les deux? Comment va-t-elle?
Elle va mieux. Elle a décidé de couper complètement les ponts.
Oui, donc il s'est vraiment passé quelque chose.
Ça a été, oui. Ça a été très difficile parce qu'à ses 16 ans, d'un seul coup, elle s'est effondrée. Voilà, ça arrivait de nulle part. Alors qu'il y avait toujours une relation hyper valorisée, père-fille, mais quelque chose finalement de pas, qui ne reflétait pas la réalité. Voilà, parce que la réalité, c'est que finalement, tout allait dans le sens du papa. Qui expose comme il veut, ce qu'il veut, quand il veut, vous voyez, et sans vraiment se préoccuper de l'enfant ou sans vraiment se préoccuper d'agir en fonction de l'âge de l'enfant ou même de sécuriser, de la sécuriser.
Bien
moi,
sûr.
C'est comme ça que je le ressens parce que le fait qu'elle aille aussi mal d'un seul coup et qu'elle ne veuille plus du tout lui parler, et c'est que ça devait être difficile à vivre.
C'est une évidence. Pour quelle raison cette jeune femme couperait court à sa relation avec son père? C'est que, voilà, il y a, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, donc il y a une raison profonde à votre fille. C'est quand même violent de couper comme ça court, c'est que forcément il s'est passé quelque chose. Donc est-ce qu'il n'y a pas eu encore plus que ce qu'elle arrive à exprimer aujourd'hui. Vous vous souvenez des tiroirs dont parlait Cécile ? Cette image des fameux tiroirs qu'on ouvre et qu'on referme. Est-ce que vous êtes sûre aujourd'hui que votre fille n'a pas vécu quelque chose de plus dramatique que...
Mais après avoir exploré un peu, parce qu'on parle ouais. régulièrement, etc. Ouais. Je suis là pour l'aider. Elle a eu aussi de l'aide extérieure. Et comme ça, pour l'instant, bon, il semblerait que non. Que ça n'ait pas dépassé comme ça le fait que la sexualité de son père était, je ne sais pas comment dire en fait, exhibée, voilà. Et puis même peut-être plus, en fait, ce qu'il devait montrer, c'est que c'était plus important pour lui, à la limite. Parce que bon, je passe les détails, parce que les compagnes, vous voyez, à un moment donné, il avait une compagne qui ne venait, il voulait être tranquille. Je sais pas si je dois partir dans les anecdotes, c'est peut-être pas intéressant.
Allez, vous avez la libre parole, Nathalie.
D'accord.
Une fois que c'est
d'accord.
parti, de toute façon, allez-y. Puis ça fait du bien.
Okay.
Je sens bien que vous avez besoin d'en parler.
Ok. Ben, toute une période, il avait une compagne, donc, et ma fille était vraiment petite à ce moment-là. Donc, j'avais fini par découvrir que la compagne qui n'était que une compagne pour de jeu, entre guillemets, en fait, elle ne venait pas les week-ends où ma fille n'était pas là, parce qu'il préférait être tranquille, mais elle venait les week-ends où ma fille était là. Comme ça, il faisait d'une pierre deux coups. Oui. À la fois, il avait l'enfant et puis à la fois il avait la compagne, voilà. Et puis les détails, c'est qu'à l'époque il n'y avait pas de chambre pour tout le monde en fait. Vous voyez.
D'accord. Donc l'intimité, c'est terrible quoi. Il n'y avait pas d'intimité pour elle et il n'y avait pas d'intimité pour eux.
Exactement.
C'est terrible. Ouais. Non, c'est pas très sain tout ça.
C'est pas sain.
Non.
Ouais. Je suis contente de vous l'entendre dire. Moi, ça.
Ben oui.
Ma question principale. Donc, à un moment donné, là, après que ça soit senti mal, donc il y a une phase un peu d'autodestruction. Enfin, quand je dis un peu, j'essaye un petit peu d'atténuer. Hein.
D'atténuer. Oui. Je comprends même pour vous en tant que maman, parce que sinon, ça doit vous faire beaucoup de mal de revoir ça. Mais.
Oui, c'est vrai que ça n'a pas été facile parce que par le passé, bon, j'avais vérifié certaines choses, etc. Et tout semblait aller bien, voilà. À 16 ans, donc ça ne va plus. Et puis, c'est suivi par une phase d'autodestruction et ça arrive d'un seul coup et aussi une dépression. Donc, c'est pas évident quand ça arrive, ça concerne un enfant. C'est vrai que c'est un peu, voilà. Et puis donc aussi le fait que, vous voyez, les faits comme ça que j'ai à livrer, ils sont pas très graves, ils sont pas très importants. Et en fait, quand on a cherché de l'aide, on n'est pas tellement écouté et au final, c'est pas tellement traité ce genre de sujet. Vous allez me dire si je me trompe, pour moi, c'est une forme de violence quand même.
Mais bien évidemment, on est sur... Totalement, c'est de la violence. Alors, le SMS est psychique, oui, on est sur des cicatrices. On est clairement sur des syndromes de stress post-traumatique.
Et c'est voilà, très d'accord.
Voilà, et donc c'est très souvent même invisible, mais ça a autant d'impact sur notre psyché, sur notre intégrité, sur ce que nous sommes. À la limite, on se reçoit un coup, ça cicatrise et on n'en parle plus presque. Mais quand c'est de l'ordre du harcèlement ou de l'ordre psychique, c'est beaucoup plus ancré. C'est beaucoup plus ancré. C'est d'ailleurs, je vous dis, dans l'ordre des violences, c'est vous faire cracher dessus. C'est ce qu'il y a de plus traumatisant dans les violences. Se faire cracher dessus, c'est plus grave que de se prendre un coup. Sans minimiser, hein. Mais dans l'ordre, dans l'échelle, se faire cracher dessus, c'est ce qu'il y a de plus violent entre deux individus. Donc, moi, j'ai une question là pour vous, Nathalie. Vous avez, en tant que mère, une intuition que quelque chose n'allait pas. À quel moment est-ce que vous avez eu des doutes sur cette forme de maltraitance, parce que finalement, c'est de la maltraitance, vis-à-vis de votre fille? À quel moment est-ce que vous vous êtes posé ces questions?
Alors, elle avait donc à peu près 4 ans. Et enfin, je ne sais plus si c'est vers 4, 5 ans. Donc, du fait de ce qu'elle faisait en revenant, qu'elle s'entourait comme ça avec ses peluches avant de dormir, vraiment le soir même du retour. Et puis aussi les dessins, voilà, qui me paraissaient des fois un petit peu bizarres. C'était vraiment ces deux choses-là. C'est à ce moment-là, je me suis dit, et puis il va y avoir peut-être d'autres signaux. Je ne serais pas capable du coup de là d'expliquer vraiment. Mais à ce moment-là, c'est là que je m'étais posé des questions. Vers 4-5 ans, j'avais cherché des informations. Et puis, honnêtement, j'avais contacté le médecin qui la suivait. Donc, qu'on appelle le médecin pour enfants, j'ai plus le mot en tête.
Un pédiatre.
Le pédiatre, voilà.
Donc, j'avais un pédopsychiatre, mais non, c'est un pédiatre quand c'est un médecin pour les enfants, oui. Un pédiatre.
Oui, c'est ça. Donc, c'était la pédiatre qui la suivait. Mm-hmm. Et donc, j'avais contacté. Elle m'avait dit, écoutez, vous venez en rendez-vous comme si... on va rien dire de particulier, etc. On vient pour une visite de routine. Et puis, moi, je vais... C'était une dame expérimentée. Je vais voir si tout va bien, quoi. Et puis, elle en avait conclu que ça allait. Que ça allait, si vous voulez, qu'il n'y avait pas d'agression directe.
D'accord.
Voilà, danger et d'agression directe. Voilà. Ça, c'était vers les 4-5 ans.
D'accord.
Donc, moi, je ne savais pas là, cette exposition aux photos et tout ça, j'ai fait ça plus tard. Le fait qu'avec les compagnes, tout ça, c'était un peu bizarre, comme j'ai expliqué tout à l'heure, il y a une compagne qui venait que quand l'enfant était là. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc c'est vrai que je pouvais avoir que des doutes, quoi. Une fois que j'étais rassurée, ce médecin m'avait dit
elle va bien, tout semble normal.
Ça va. Ouais, voilà. Ça va. Exactement. Donc je pouvais rien faire de plus en fait, parce que ce n'est pas y avait quelque chose qui n'allait pas. Moi, je le voyais dans le comportement de ma fille, et puis même des années après. De toute façon, il y a toujours eu quelque chose de particulier dans la relation avec le papa. Quelque chose de trop beau qu'on montre, qui est magnifique, qui est très beau, une grande complicité, mais en fait, totalement, en étant totalement une façade.
Nathalie, je vous laisse terminer parce que j'ai une autre question après.
Oui. D'accord, oui. Ce que je voulais aussi, je voulais en parler, tout ça, parce que ça paraît comme ça, je sais pas comment dire. En fait, on se retrouve un peu coincé dans une sorte de marasme, hein, parce qu'il y a quelque chose de pas clair, quelque chose qui fonctionne pas, quelque chose qui est même destructeur, À aucun moment, on peut dire, voilà, c'est telle chose très grave et obtenir, quelque chose de réparateur Et du coup, à l'heure actuelle, tout va bien, mais on ne peut pas totalement dire stop et voilà. On ne peut pas totalement dire stop et mettre un arrêt à tout ça. Je me permets de donner un exemple. Je suis désolée, du coup, là, je vais un petit peu partir sur autre chose. Ma fille ne s'est pas présentée à son baccalauréat.
Ouais.
parce que ça fait peu de temps qu'elle va mieux. Donc, il y a eu un peu plus d'un an et demi de suivi hebdomadaire avec un psychologue. Mm-hmm. Ça l'a énormément aidée. Elle a pris du recul. J'ai de la chance qu'elle ait une certaine force, etc. Donc, elle a pris du recul avec le psychologue, mais donc 3 mois à peu près avant le bac, mais elle est quand même pas totalement, enfin, sereine, et elle a pas pu. Alors qu'au niveau de la scolarité, avant ses 16 ans, il n'y a jamais eu aucun problème, en fait.
Et il n'y a pas eu. C'est très étrange. Hein. C'est très, très étrange.
Bon,
oui, parce que c'est comme si il y avait ce... Elle était peut-être dans une forme de déni, et puis tout à coup, il s'est passé un événement, et voilà, la boîte de Pandore s'est ouverte, et ça a fait remonter des choses, plus son adolescence.
L'événement, on le connaît, l'événement. Oui, oui, tout à fait. Bah, c'est une nouvelle compagne du papa. C'est-à-dire que, en fait, c'est une personne qui change au gré de ses compagnes. Donc, avant ça, c'est encore une autre chose. Avant ça, il était pendant quelques années avec une compagne qui maltraitait ma fille. Mais pareil, qui l'a maltraitée de façon, vous voyez, pas des choses contre lesquelles on pourrait tout de suite déposer une plainte. Mais il y a quand même eu de la maltraitance, de l'humiliation notamment. Donc ça, c'était la compagne de l'époque avec qui il habitait. Et le moment où ma fille à 16 ans a commencé, eh bien, il s'était mis avec une nouvelle compagne qui l'accaparait totalement, lui, du coup. Et à un point que j'ai eu l'impression que du coup, elle avait été un peu exclue cette fois-là. Et je dirais, eh ben, tant mieux, parce que du coup, en étant un peu exclue, puisque ce sont deux adultes qui étaient vraiment comme des adolescents, hein, tout le temps, pendant toutes les vacances et tout ça, elle s'est retrouvée un peu exclue, et j'ai eu l'impression que du coup, elle a pu se détacher un peu, et puis voir mieux ce qui se passait. Enfin, vous voyez, finalement, elle n'était pas, oui.
Je veux dire que généralement, on ne voit pas forcément les choses telles qu'elles sont, mais on les voit plutôt telles que nous sommes. Donc les interprétations, elles sont en fonction de ce que nous sommes. Et là, la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que vous en avez déjà parlé avec donc son père? Si oui, qu'est-ce qu'il pense, lui, de la situation? Qu'est-ce qu'il en dit?
Alors, lui, cette situation, il n'en pense rien du tout. On ne peut pas parler avec lui. Même il y avait une rencontre organisée par le psychologue, une rencontre père-fille. Il est dans un déni total. Pour lui, tout est normal, tout va bien. Alors il dit tout va bien, tout est miraculeux. Bah, moi, je trouve que quand on a un enfant qui va très mal, qui fait une dépression, etc., bah, c'est ou qui peut pas passer son bac, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui cloche. Donc pour lui, non, c'est quelqu'un qui est totalement dans le déni. Alors concernant la relation avec moi, on n'en parle même pas, puisque bien évidemment, ça a toujours été du jugement, de la diffamation, etc. Voilà. Donc ni moi ni ma fille finalement, puisque finalement c'est elle quand même la principale intéressée, elle a été à ce rendez-vous donc initié par le psychologue. Et 1h30 de rendez-vous, si je me souviens bien, à aucun moment, ce rendez-vous, c'était fait pour qu'elle puisse dire tout ce qu'elle avait à dire.
Oui.
Elle l'a fait, mais à aucun moment, elle a été entendue. Voilà, par son papa.
Ah oui, c'est le... D'accord, c'est ce qu'elle ressent, elle. C'est vraiment le sentiment que, en fait...
Alors, là, c'est... Oui.
J'allais vous dire... Le temps d'y répondre, on lance juste une petite pub et on se retrouve juste après. D'accord. À tout de suite.
La libre antenne d'Europe 1.
Sana Blanger accompagne vos nuits.
Nathalie, merci d'être avec nous. Donc, vous étiez en train de nous expliquer que votre fille avait fait un rendez-vous avec son père et puis donc un psychologue. C'était un psychologue qui était là ?
Oui, tout à fait.
Pour, entre guillemets, quel était l'objectif de ce rendez-vous ?
Eh bien, c'est en fait, l'objectif, c'était justement, elle avait tout mis par écrit, donc donc livrer, donner la lettre n'était pas suffisant. Donc l'objectif était de lui dire de vive voix, et puis je pense qu'elle attendait quelque chose de constructif de sa part.
Oui, je comprends.
Une reconnaissance, des difficultés que ça lui avait causées. Je pense que c'était ça, à peu
près. Puis surtout qu'il réalise ce qu'il avait pu faire et l'état dans lequel était sa fille. Ça eût été intéressant déjà qu'il s'en rende compte.
Oui, je pense que c'était bon. C'est vrai que moi, je suis un peu du coup externe à tout ça, puisque là, c'était dans ces cas-là, elle était en psychothérapie avec cette personne. Mmh. Donc c'est quelque chose de, enfin voilà, qui se faisait entre le thérapeute et puis elle. Bon, moi, je suis juste du coup là en tant qu'observatrice, et puis c'est vrai que c'est.
Mais heureusement,
c'est un peu compliqué.
Heureusement
que
vous êtes là.
Comprendre.
Heureusement que vous êtes là pour la soutenir, mais bien évidemment. Parce que, on en parlait, donc libérer la parole, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, mais vraiment plus compliqué quand on est victime. Parce que le temps de réaliser qu'on est une victime, déjà, c'est vraiment un sacerdoce. C'est le parcours du combattant de dire ben voilà, j'ai été victime. Et très souvent, on culpabilise, mais la culpabilité nous ronge. Et on se rend compte que, non. Et le fait que vous puissiez l'accompagner dans ce parcours-là, c'est admirable. Merci. Merci pour elle. Merci.
Oui, c'est, vous dites ça, mais en même temps, c'est vrai que je me sens un petit peu maintenant, le plus difficile est derrière nous, je dirais. Parce que, parce que par rapport à d'autres histoires, c'est vrai que moi, je suis très émue toujours quand je parle de ça. Pour moi, c'est encore récent. C'est vrai, j'ai bien conscience que que par rapport à d'autres histoires, c'est plus, je dirais même que ça doit être très courant, ce genre de situation, et que moi j'ai l'impression qu'on fait pas assez attention à ce genre de choses. Vous parliez de pudibonderie tout à l'heure, moi je suis pas du tout, j'ai pas des idées arrêtées, pudibondes ou quoi que ce soit. Moi, je me suis juste basée sur ce que j'ai vu pour ma fille, des difficultés dans lesquelles elle s'est retrouvée, et puis il a bien fallu chercher d'où ça venait. Je savais que ça venait pas de moi, de l'éducation que je lui donne, ou du milieu dans lequel je la fais vivre. La question aussi que je voulais vous poser, Sana, c'était parce que l'autodestruction, c'est quelque chose. C'est difficile pour un parent à appréhender. Enfin, moi, je sais que dans ma famille, il n'y avait pas de quelque chose de similaire avant. Donc, j'avais jamais pensé que ça pouvait toucher quelqu'un de la famille. Et donc, ça a été très difficile, de voir que ma fille a eu cette période assez longue là, du coup, d'autodestruction.
Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se scarifie? Qu'est-ce qu'elle fait exactement?
C'est ça.
C'est la scarification.
Oui, c'est ça. Alors là, c'est terminé, etc. Je pense que voilà. Il y a une période. Et la question que je voulais vous poser, justement, et c'était vraiment aussi vraiment l'objectif peut-être de mon appel, en plus du reste, c'est est-ce que ça peut s'expliquer par un vécu difficile tout ce que je vous ai expliqué avant, est-ce que ça vient de là ou ça peut venir d'ailleurs?
C'est un effet millefeuille. La scarification, c'est surtout les adolescents. Forcément, c'est l'appréhension de son corps qui change, de ses hormones qui travaillent, des événements de nos vies. Et clairement, je vous le dis, c'est Nathalie, la scarification est une tentative de suicide. Donc ça prouve bien que votre fille ne va pas bien, qu'il faut qu'elle continue à faire, à suivre sa thérapie. Donc je le dis pour les auditeurs, si vous avez des enfants qui se scarifient, attention, c'est vraiment un cri d'alarme, c'est un SOS que vos enfants font, et il faut chercher la source et comprendre ce qui leur arrive. Donc l'autodestruction, clairement, c'est une image de soi qui est complètement déformée, je ne sais pas comment elle se trouve, mais ça doit être compliqué en termes d'image comment elle se regarde, comment elle appréhende son corps, comment elle se voit. Donc, heureusement que vous êtes là. Maintenant, pour l'aider, il faut l'entourer et puis il faut qu'elle-même arrive à trouver les moments, des choses qui la ressourcent, qui lui font du bien pour faire en sorte d'inverser la situation et se rendre compte qu'elle est importante, qu'elle a une vraie place, parce qu'elle existe. Voilà, qu'elle existe. Et là, il faut l'accompagner à trouver différentes occupations qui peuvent par la suite devenir des passions. Mais c'est vrai que voilà, faut l'encourager à rencontrer, à tester des choses pour faire en sorte qu'elle aille vers la lumière et de ne pas rester dans les ténèbres.
Oui. Alors, c'est, je comprends tout à fait. Et bon, heureusement, il y a une partie qui est déjà faite, qu'elle a déjà faite, qui correspond un peu à ce que vous décrivez. Elle s'intéresse beaucoup, du coup, à se créer un style, etc. Et elle m'avait dit à peu près ce que vous venez d'expliquer. À un moment donné, elle avait un problème avec son image. Donc ça s'est traduit par le fait qu'elle s'est mise à vraiment s'intéresser à se créer un style qui lui appartienne, etc.
Très bien. Ça, c'est important, bien sûr.
Oui. Et c'est juste tout ça, finalement, ça pourrait être juste un écueil dans le fait de grandir, d'être adolescent.
Tout à fait.
S'il n'y avait pas eu ces... Ça pourrait être juste ça, en fait. Ce n'est pas obligé qu'il y ait eu des problèmes comme il y a eu au sein de la famille. Ça pourrait être juste le fait de grandir.
Maintenant, ça démontre toujours la scarification. En tout cas, démontre vraiment un mal-être très, très, très profond. Le sentiment de ne pas exister. Et donc, en allant se faire mal, en se faisant mal, eh bien, en fait, par la douleur, on réalise qu'on a un corps et que ce corps, il vibre. Et quand il souffre, il existe.
Oui, d'accord.
Donc, c'est pour ça que je vous ai tout de suite parlé de la scarification en lien avec l'âge de votre fille.
Écoutez, merci. Parce que là, par contre, moi, je me rends compte que quand même ça prend sa source quand même dans un vécu je vais le dire avec son papa.
Voilà. Ah oui, Nathalie, puisqu'elle elle coupe court à sa relation avec lui, donc il y a probablement, moi je ne sais pas ce qui s'est passé, mais cause à effet, donc
Oui, d'accord, mais c'est vrai que moi, parce que dans tout ça, finalement, depuis X années, même si je suis la maman, quand c'est une garde partagée, en fait, vous êtes un peu, même si c'est votre propre enfant, vous êtes un peu l'observateur, du coup. Enfin, vous voyez, vous n'avez pas tous les éléments, et c'est pour ça que moi, j'ai du mal à, des fois...
En fait, on a ce sentiment-là quand on est pris d'un grand sentiment d'impuissance. On se dit, finalement... Oui. Moi, j'aimerais aider ma fille, mais je ne sais pas comment faire. Je suis dépassée, débordée. Et on peut avoir ce sentiment d'être finalement juste spectateur parce qu'on est impuissant, tout simplement. Mais rassurez-vous, Nathalie, tant que vous serez à ses côtés, tant que vous continuerez à lui apporter de la protection, puisque c'est manifestement ce qu'elle recherche, et puis en même temps de l'amour... Voilà, tout en lui laissant maintenant la possibilité de pouvoir déployer ses ailes et devenir autonome, plus autonome. La confiance aussi, c'est important, très important.
Oui.
Parce qu'on peut avoir tendance à surmaterner aussi son enfant quand on le voit mal.
Ah oui, non, moi j'évite absolument de faire ça. Puisque justement, j'ai eu des exemples comme ça, peut-être de mamans qui maternaient trop, en général,
Ce qui sera intéressant dans votre communication avec votre fille, quand elle vous pose une question ou quand vous sentez qu'elle demande un conseil, demandez-lui toujours ce qu'elle aimerait faire, elle.
Oui.
D'accord. Demandez-lui, et toi, qu'est-ce que tu ferais? C'est une façon aussi de lui montrer que vous lui faites confiance dans sa capacité à développer son libre arbitre, à avoir des avis, etc. Donc vraiment, demandez-lui forcément quand on a une question avec un conseil derrière demandé, on a soi-même la solution. Donc ça peut être intéressant aussi. Et puis éviter la question pourquoi aussi, Nathalie.
D'accord,
parce que la question pourquoi, il y a toujours une notion de jugement derrière.
Ah oui.
D'accord. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux mettre en place? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu en penses? Mais oubliez la question pourquoi.
D'accord.
Qui vous fera du bien aussi à vous.
D'accord.
D'accord.
Je vais retenir ça. Je peux vous dire juste une petite dernière chose.
Une petite dernière chose.
Très rapidement.
Bien
en
sûr.
Fait, tout à l'heure, quand je disais qu'il n'y avait pas de stop, pas d'arrêt, c'est parce que là, donc la famille du papa a appris qu'elle ne s'était pas présentée au bac.
Au bac, ouais.
Parce qu'elle, voilà, elle est en lien avec le reste de la famille, hein, sauf avec le papa, mais bien évidemment, elle ne les a pas contactés pour se vanter qu'elle ne se présentait pas au bac. Donc, ils ont fini par le savoir. Et bien évidemment, ils sont en train de chercher, de gratter, puisque ça serait moi la fautive, l'entière fautive, vous voyez. Alors même que, d'après moi, quand même, les problèmes, si tout avait été plus serein avec le papa, je pense qu'elle aurait juste continué sa scolarité comme avant et qu'elle aurait été, elle se serait présentée et qu'elle aurait eu ou pas, voilà, mais elle se serait présentée. Mais quand même, voilà pourquoi je dis qu'il n'y a pas d'arrêt à ce genre de situation, parce que là, ils sont quand même en train de chercher si la responsable de cette non-présentation au bac, comme elle ne voit plus son papa,
oui.
Si ce n'est pas, du coup, moi, la mauvaise influence, puisqu'elle ne le voit plus, lui. Voilà. Et donc,
ils ont le droit de le penser, puisqu'ils n'ont pas tous les éléments. On ne peut pas leur en vouloir parce qu'ils pensent ça. Et voilà, maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'ils cherchent quand même à comprendre. Donc, ça veut dire qu'ils reconnaissent quand même sa place, sa légitimité et sa place dans la famille. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose pour votre fille. Maintenant, à vous de voir quand est-ce que vous aurez envie d'en parler, si vous avez envie d'en parler et si c'est à vous de le faire.
Oui, d'accord. Okay.
Tout simplement. Mais vous savez, avec le temps, on finit toujours par... Tout finit par se savoir.
Dans cette famille, en fait, le problème est connu déjà depuis longtemps. Quand j'ai rencontré le papa, le problème existait déjà. Et une addiction qu'il a, voilà. Et le problème existe maintenant, je le sais. Je le sais.
Une addiction à quoi?
Une addiction au sexe.
D'accord.
Voilà. D'ailleurs, qu'il ne s'en cache plus, puisque les dernières fois où il a vu, du coup, notre fille, il lui a carrément dit, bon, depuis, de toute façon, elle a découvert différentes choses, clairement, qui montrent ça. Hein, voilà. Et il ne s'en cache plus, c'est-à-dire que c'était même devenu malsain, parce que les derniers temps où il la voyait, il se vantait même. Et même, il est allé jusqu'à lui dire, qu'elle m'a rapporté tout de suite, parce que ça l'a étonné, il est allé jusqu'à la questionner sur sa propre vie, et dire, vous voyez, il était un peu, je ne sais pas comment dire, narquois, ou je ne sais pas, un peu de façon, une façon humoristique, est-ce que tu seras comme moi ou
j'espère
que tu seras pas comme moi ou je sais un truc de ce genre-là. Vous voyez qu'il l'a un petit peu étonné, ma fille. Voilà. Mmh. Donc c'est su depuis longtemps cette situation.
Je comprends.
Et voilà.
Bon, Nathalie, j'espère en tout cas que votre fille se sortira de tout ça, vraiment. Qu'elle.
Oui, c'est en bonne voie et. Et puis, voilà. Je vous ai coupé la parole.
Non, je vous en prie. Moi, je vous souhaite en tout cas vraiment le meilleur, autant l'une que l'autre. Et qu'est-ce que je peux vous souhaiter d'autre?
Déjà, ça c'est beaucoup, voilà. On y travaille. C'est vrai que la situation s'est un peu améliorée. C'est malheureux à dire, le fait qu'elle lui parle plus.
Oui, c'est pour ça. J'espère vraiment que ça va s'arranger. Moi, ce que je vous recommande, c'est de réécouter demain votre passage sur Europe 1 en podcast, parce que je vous ai senti très très émue à plusieurs reprises, ce qui vous permettra en plus de vous réécouter et d'avancer. Ça va vous aider également à avancer dans votre développement personnel ainsi que celui de votre fille.
Oui, d'accord.
D'accord.
Écoutez, c'est une très bonne idée. Je vous remercie vraiment de m'avoir accordé du temps.
C'est normal. Prenez soin de vous, Nathalie.
Merci mille fois. Et puis bon, votre émission est super. Moi, j'écoute depuis des années et j'avais peur de vous parler, mais voilà.
Et ben voilà. Ben merci de votre fidélité. Rappelez-nous quand vous voulez.
D'accord, ben c'est très gentil, Sana. Merci beaucoup.
Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir.
Sana Blanger est à votre écoute sur Europe 1.
Nous accueillons tout de suite Françoise. Bonsoir Françoise.
Bonsoir Sana.
Bienvenue à la Libre Antenne.
Bah c'est gentil comme tout. Bah, surtout que je me sens bébête avec mon histoire, mais enfin bon.
Mais non. Pourquoi bébête? Enfin, il n'y a pas de bébête.
Bah je sais pas, c'est ce que je ressens alors en ce moment.
C'est votre priorité à vous, donc vous savez, encore une fois, hein, c'est... Chacun a son histoire et puis voilà, il n'y a pas de mieux ou de...
Non, je ne sais pas pourquoi, c'est ce que je ressens.
Qu'est-ce qui vous arrive, Françoise?
Bah, parce que, un, je suis malvoyante. Deux, j'ai des problèmes, vous savez, articulaires qui intéressent tout le corps, là. Mais alors, les problèmes articulaires, je vais essayer de faire comme ça. Écoutez, je fais ce que je peux.
Bah, voilà.
Des problèmes articulaires dans tout le corps. Bon, puis je fais pas grand chose pour remédier à ça. Et alors ces problèmes, les yeux c'est fini, hein. c'est malvoyance. Oh non, je serai toujours malvoyante. Toutes les articulations, non, je risque d'aller mieux, beaucoup mieux, mais il faut quand même faire des petites choses. Ben, je fais plus rien, je me laisse aller, je bouge pas. Ben, voilà.
Mais pour quelle raison? Qu'est-ce qui se passe?
Bah parce que ça fait très mal. Ah. Et puis bah parce que peut-être que je dépense en même temps que je dois déprimailler, comme je dis, déprimailler.
C'est mignon.
Bah oui, parce que j'aime pas le mot déprime. Alors je dis déprimailler. Et puis voilà, donc c'est pas rigolo pour quelqu'un qui... Je sais pas, je suis créative, je faisais plein de choses avant.
Bah oui, mais je vous sens je vous sens vraiment très dynamique. Donc je me dis, mais c'est quoi? C'est juste un petit ras-le-bol en ce moment et puis vous allez reprendre après? Comment vous le sentez?
Bah, je le souhaite, c'est pour ça que j'ai dit que je le souhaite, ça suffit. Rester parce que j'augmente ma douleur, la douleur de tout le corps, les yeux aussi, j'en fais tout un... Un pataquès, parce qu'avant, je n'étais que malvoyante. Mmh. Bon. Alors, moi, ce que j'aime, c'est les relations humaines, parler, marcher. Ah oui, les relations humaines, alors dites donc, moi, c'est toute ma vie. Alors, pourquoi j'irais, je sais pas, moi, comment ça, je fais 100 mètres, je descends les escaliers, 100 mètres, je remonte, le lendemain, 150, je remonte, puis là, il y a un petit square, là, mais ah, je ne vais pas très loin, là, mes activités. Et puis, non, je ne vais pas très loin. Puis là, il y a un petit square, ben, je vois les gens. Je parle un petit peu avec, de tout et de rien.
Ouais.
Ben, écoutez, pourquoi pas, plutôt que de rien faire du tout.
Ben oui.
Hein,
et est-ce que je peux me permettre de vous poser... Est-ce que vous avez quel âge?
Je ne sais pas.
Vous avez quel âge, Françoise?
Oh, 5 et 3.
5 et 3?
53 ans, oui.
53 ans?
Oui.
Mais...
Oh, mais ça ne veut rien dire, ça, hein. Ça fait... Moi, j'avais pas mal comme ça avant. Hein. Et puis, ça fait quelques années que je suis malvoyante, quoi, voilà.
Ouais. Et donc là, votre corps est fatigué de ce qu'on entend.
Bah, c'est toutes les articulations, c'est... Alors, on va le dire, c'est neurologique.
D'accord.
Musculaire, inflammatoire. Oui, ben bah, voilà, bah, ça fait mal tout ça.
Ben bah, oui, bien sûr.
Comme je me c'est crispé. Et comme j'ai une tendance à me crisper, à tétaniser, voilà. Alors là, je suis dans une... Qu'est-ce que je fais? Ben rien. Bah, je pense pas que ça va durer longtemps comme ça. C'est pas possible de pas rester.
Bah non, parce que vous devez vraiment énormément souffrir.
Encore un peu plus.
Eh ouais. Mais normalement, c'est quoi comme traitement? C'est des opiacés? Qu'est-ce qu'on vous donne pour supporter toutes ces douleurs?
Bon, je les supporter... Bah, j'ai quelques petits médicaments, oui, des petits opiacés, bof, oui. Qu'est-ce qu'il y a encore? Bah, j'en ai pas assez, puis j'ai jamais de médecin qui vient. Alors, un petit peu, vous savez, avant, il y avait des myos relaxants. C'est
oui.
Fini.
Mmh.
Il doit y en avoir. La rhumato, elle est partie. La rhumato, elle aurait pu me donner elle n'est pas là. Alors, les médecins, j'ai pas de médecin. Non, moi, j'ai que. Non, j'ai pas de médecin en ce moment. Alors, c'est SOS médecins, ils sont pas là non plus. Alors oui, j'ai quelques petits médicaments, mais enfin bon. Oui, bon.
Vous êtes dans quel coin, Françoise ?
Dans 92, celle-là.
Ah oui, bah d'accord. Ok, donc nous sommes voisines. Alors, pourquoi je vous pose cette question ? Parce que je ne vous en aurais jamais parlé si, au journal de 20h ce soir, on ne parlait pas du CBD. Est-ce que vous avez entendu parler du CBD ?
Non.
Non, c'est du cannabidiol. Diol, pardon, du cannabidiol. Donc ce sont des médicaments, mais des traitements à prendre à base de cannabidiol qui sont reconnus maintenant. Et ça fait un effet incroyable. Alors, je me permets d'en parler parce que cette semaine, j'ai eu un gros souci de santé avec des douleurs extrêmement violentes, mais alors comme jamais j'en ai eu. Et j'ai la chance d'avoir une voisine on se croise, je lui en parle et elle me dit « Bah tiens, je te donne une petite fiole et tu m'en diras des nouvelles. » Et alors, sincèrement, en l'espace de 2 jours, je n'avais plus mal du tout. Donc je vous en parle.
Ça a duré combien de temps, votre histoire ?
Je suis encore dedans, c'est encore un petit peu compliqué, mais alors je peux vous dire que je reviens de loin. Parce que je souffrais le martyr.
C'est ça, j'osais pas le dire, mais enfin, c'est un petit peu martyrisant au bout d'un certain temps.
Ah, c'est exactement
ça. C'est pour ça que je me défends en ne faisant plus rien, ce qui n'est pas bien non plus.
Non, c'est pas bien, c'est pas
bien
non plus.
Oui, mais un médecin, il va, si je lui demande, il ne va pas me donner ça.
Un médecin, non, mais sur Internet, alors ça s'appelle Mindology. Alors M-I-N-D de Daniel, O-L-O-G-Y, je crois, Mindology. Oui, c'est ça. Mindology.
Oui.
Mais vous pourrez réécouter ça en podcast dès demain.
Non, mais je l'entends, Mindology.
Voilà, sur Internet.
Et alors, ils ont
3 produits. Le premier produit s'appelle Bonne Journée, donc c'est un qui permet de déstresser. Le deuxième s'appelle Bon Courage, donc c'est justement pour les douleurs. Et Bonne Nuit, c'est pour aider et accompagner pour le sommeil. Vous voyez, donc... Et franchement, je ne me permettrais pas d'en parler si moi-même je ne l'avais pas testé et que ça fonctionne.
Oui, mais alors il faut acheter ça sur Internet.
Sur Internet, oui. Mmh.
Parce que un médecin ne peut pas vous en donner.
Non, parce que ça fait partie des médecines douces, médecines parallèles. Et hormis les naturopathes. Un naturopathe, si vous allez voir un naturopathe, il peut vous prescrire ce genre de traitement, de cure. Qui sont des médecines parallèles et qui sont des compléments, attention, ce sont des compléments aux morphines, aux opiacés, enfin tous ces médicaments antidouleurs, analgésiques, etc. Mais en tout cas...
Soi-disant, franchement, oui.
Bon, le principal, c'est que ça marche. Et surtout, Françoise, ne restez pas comme ça.
Ah non, ce qu'il faut, c'est que je marche quand même, que j'existe. Qu'est-ce que ça veut dire de plus exister comme ça ?
Ben oui.
Non, parce que dans ma tête, je me dis, allez, tu marches tout doucement, 100 mètres, tu descends tes escaliers, tu remontes, et puis le lendemain, 150. Puis 200, vous voyez ce que je veux dire ? 300.
Bravo. C'est presque le premier étage de la Tour Eiffel. Oui.
Puis voir des gens, c'est affreux de rester comme ça. S'il y a des personnes qui viennent, j'ai une aide à domicile parce que c'est l'État qui m'a donné ça parce que je suis malvoyante. Bon, vous savez, c'est le conseil général. Oui. Alors elles sont pas terribles des fois, mais je suis contente quand je rencontre des gens. Et puis alors, comme je suis malvoyante, et j'écris beaucoup. Alors je leur demande d'écrire, mais c'est que de l'administratif. Ah oui, j'écrivais énormément. Moi, je suis pianiste aussi. Mais oui. Alors pourquoi je dis ça ? Non, moi je pense que l'essentiel c'est de pouvoir marcher tout doucement et puis un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus parler. Je suis sûre que je vais m'en sortir comme ça.
Ah mais je vous le souhaite. Surtout, ne restez pas... J'ai envie de dire, c'est la phrase de Joseph Roux qui disait « La solitude vivifie, l'isolement tue ». Surtout, ne vous isolez pas. Vous qui adorez aller vers les gens, vous qui... Je vous entends, je vous imagine extrêmement sociable, très ouverte, d'une nature optimiste en plus. Donc, voilà, continuez à être ce que vous êtes et surtout, ne vous isolez pas. Donc, s'il vous plaît, ne restez pas seul isolé à cause de ces douleurs.
Bah oui, isolé, rien faire. C'est une réaction un petit peu négative, mais elle est négative.
Elle est. Mais Bon, Françoise.
C'est une réaction, quoi. C'est une réaction.
C'est une réaction A. Maintenant, qu'est-ce qui peut vous aider à reprendre ce traitement?
Même moi, le courage, un petit peu de courage. Je ne vais pas dire que je vais faire 800 mètres tout de suite, mais enfin, faire 100 mètres, descendre les escaliers, dire, bon, parler au Squarian qui Square adore à Macador la nature. Bon, il n'est pas immense, hein, c'est pas.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et puis parler à des personnes, et puis parler. Essayer même d'aller à une petite épicerie, acheter un petit paquet de gâteaux, une bêtise comme ça. Bonjour, ça va? Vous voyez, c'est horrible, même pas de vie sociale. Parce que c'est la dame qui vient de chercher l'aide à domicile, là, qui va chercher. Je fais plus rien.
Où sont vos amis? Où sont.
Oh, ils sont loin, mes amis. Ils sont pas là. Alors, j'ai un ami aussi que j'aimerais bien voir. Moi, j'adorais le voir, j'adorais. J'aime bien m'occuper des autres, enfin, m'occuper. Être avec les autres.
Oui.
Eh ben oui, ben, j'y vais pas. Avant, je marchais, ça faisait bien 2 kilomètres. J'allais le voir, je restais toute la journée. Qu'est-ce qu'il était content, et moi aussi. Ça lui faisait plaisir, il est seul, ce monsieur. Beaucoup plus malade que moi, ça n'a rien à voir, c'est encore autre chose, ça. Et ben voilà, donc je lui téléphone, enfin bon.
Bon, donc non, là, il y a un mot qui me vient en tête, c'est le mot motivation. Ce serait bien de retrouver de la motivation grâce à justement cet ami que vous aimeriez revoir, ces gens que vous aimez côtoyer, voyez ?
Ben oui, puis de la motivation pour ne pas souffrir. De la motivation pour m'en sortir.
Ah, ça c'est... Faut, je vous hein? le dis, non, faut arrêter. Faut arrêter de vous faire mal, faut arrêter de vous punir, là.
Ben oui, parce que le fait d'être immobile aussi, hein, allongé, là... Bon, ben j'écoute la radio, je fais des bêtises, je mange 2-3 machins.
Ça vous affaiblit.
Je fais 4 mètres dans mon appartement. Ben, c'est pas bon non plus l'immobilité.
Non, ça vous affaiblit.
Ça majore la douleur.
C'est exactement ça, et puis ça vous affaiblit. Et rester allongé toute une journée, c'est aussi s'écouter. Donc surtout pas, Françoise. Retrouvez la Françoise que vous aimez, dynamique. Et vraiment, j'espère que...
Enfin, quand même, convalescente. Hein.
Oui.
Je ne vais pas guérir en 3 minutes.
Non, mais tout doucement. Déjà, vous montez 300 étages à pied. Moi, je ne le ferai même pas.
Non, 4 étages.
Ah, j'ai cru que c'était 300.
Ah non, j'habite le 4e, mais 300, vous rendez compte.
C'est pour ça que je parlais du premier étage de la Tour Eiffel tout à l'heure.
Ah non, moi, je pensais que vous parliez de la Tour Eiffel. J'habite au 4e, alors je descends. Tout doucement, je prendrais même une canne pour ne pas me casser la gueule, une canne psychologique.
Oui.
C'est une petite canne pour pas, si jamais, vous savez, on n'est pas très droit, on prend une canne comme ça, quoi. Bon, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, je comprends. Françoise, on arrive bientôt à la fin de cette émission. J'espère en tout cas vraiment que cet échange vous aura donné l'envie de retrouver votre autonomie, de sortir tout doucement, petit à petit. Et c'est important parce que pour votre santé morale, vraiment, c'est...
Bah oui, voilà. Et alors on parle de kiné, mais j'ai dit malheureux, qu'est-ce qu'il peut faire kiné? J'ai tellement mal, et qu'est-ce qui va me caresser l'ongle? Non,
ouais.
Le kiné, c'est pour après. Hein.
Oui, mais bon.
Voilà. Et si jamais il y a des personnes qui veulent bien m'entendre, là, ils seront contents parce que je parlerai avec eux
bien
au
sûr.
Téléphone. Je dis ça comme ça, au cas où. Hein,
oui,
au cas où.
Oui, promis. Dès qu'on reçoit des SMS pour vous, on vous les transmet, d'accord? Je vous
Donc
embrasse,
c'est
Françoise.
C'est bien fini.
Eh oui, mais sinon vous nous rappelez. Je vous embrasse et prenez soin de vous surtout.
Oui, ben je vous remercie celle-là.
Mais je vous en prie.
Au revoir.
Merci infiniment. Merci à Cécile, Nathalie, Françoise. Je vous retrouve demain à partir de 22h après les actualités.